Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième extrait du roman de Jean Higland, Dans la forêt. La musique choisie est de Pink Floyd et la chanson La complainte du progrès de Boris Vian. Dans l'encyclopédie, l'autre jour, j'ai lu « Amnésie, perte de la mémoire provoquée par une lésion cérébrale, un choc, la fatigue ou une maladie. Lorsque l'amnésie s'installe pendant une durée prolongée, l'amnésique commence parfois une nouvelle vie sans rapport aucun avec son état précédent. On parle alors de fugue dissociative. J'ai relevé la tête de la page. J'ai regardé par la fenêtre les poules qui grattaient la cour vide et j'ai pensé « Voilà, c'est notre fugue dissociative, le temps perdu entre les deux moitiés de nos vraies vies. » L'hiver dernier, quand il y a eu les premières coupures d'électricité, elles étaient si exceptionnelles et si brèves que nous n'y avons pas vraiment prêté attention. « Ils doivent sans doute réparer les lignes, disions-nous, ou un arbre est sûrement tombé à cause de la pluie, ils vont bientôt remettre le courant. » Et effectivement, les lumières ne tardaient pas à clignoter, le lave-linge à reprendre son ronron et ses trépidations dans la buanderie, l'aspirateur à repartir en vrombissant, et une seconde plus tard, nous considérions à nouveau l'électricité comme tout à fait normale. Maintenant, quand j'y repense, je suis sûre que nous étions tous les trois en état de choc, hébétés, toujours sous le coup de la mort de mère, moins de 9 mois auparavant. Nous n'avons peut-être pas pris conscience, quand il en était encore temps, d'après les décennies d'avertissements et de prédictions, les choses commençaient vraiment à manquer. Hébétés, toujours sous le coup de la mort de mère, moins de 9 mois auparavant, nous n'avons peut-être pas pris conscience, quand il en était encore temps, qu'après des décennies d'avertissements et de prédictions, les choses commençaient vraiment à manquer. Et puis, comme nous vivions loin de tout, nous étions habitués aux épisodiques coupures d'électricité et à attendre que le courant soit rétabli dans les zones plus peuplées avant de l'être chez nous. Peut-être que nous aurions dû nous douter plus tôt que ce qui se passait était différent. Mais même en ville, je pense que les changements se sont produits si lentement ou s'inscrivaient tellement dans la trame familière des problèmes et des désagréments que les gens ne les ont pas vraiment identifiés. Que plus tard, au printemps. Pendant longtemps, le courant cessait quelques minutes par jour seulement, juste assez pour que ce soit agaçant, embêtant. Le micro-ondes s'arrêtait d'un seul coup. Le linge retombait mouillé au fond du séchoir. Le dîner refroidissait à moitié cuit dans le four. Si l'un de nous prenait une douche, l'eau coulait en un maigre filet alimenté par la gravité, sans la pompe électrique pour lui donner de la pression. Si je travaillais sur l'ordinateur, l'écran s'éteignait, et la tour poussait un râle avant de planter. Si Eva s'entraînait à la maison, le CD sur lequel elle dansait s'interrompait et elle sortait en trébuchant de son studio comme si elle venait d'être réveillée par une gifle. S'il faisait nuit et que notre père était rentré du travail, l'absence soudaine de lumière le tirait parfois du chagrin dans lequel il s'était perdu et il nous divertissait en inventant des jurons absurdes tout en tapant du pied et en s'agitant dans l'obscurité. « Que Dieu bute un beignet !» ou « Les cons font pousser des roses » hurlait-il, pendant qu'il se cognait au coin des tables et renversait des objets du plan de travail en cherchant la lampe torche, les bougies, les allumettes. Au bout de 10 ou 15 minutes, quand l'électricité revenait, Eva et moi étions presque déçus, car nous savions que son énergie maniaque se dissiperait bien trop vite et qu'il retomberait dans le désespoir. Pendant longtemps, Rares étaient les jours durant lesquels le courant n'était pas coupé au moins une fois. À la fin, rares étaient les jours où le courant revenait. À un moment, nous nous sommes rendus compte que nous avions perdu l'habitude de chercher à tâtons l'interrupteur en entrant dans une pièce. Nous avons arrêté de tendre le bras automatiquement pour tourner le thermostat du four quand nous voulions cuire quelque chose ou pour ouvrir la porte du frigo quand nous avions faim. Nous avons retiré les couvertures chauffantes de nos lits, rangé la cafetière électrique, roulé les tapis sur lesquels nous ne pouvions plus passer l'aspirateur. Notre père nous a appris à moucher, remplir et allumer les lampes à pétrole qu'il avait autrefois défendu à notre mère de jeter, et pendant quelque temps, c'est avec elle que nous nous éclairions quand la nuit tombait. Tandis que l'hiver déclinait et que le printemps fleurissait, nous nous sommes habitués au manque de fiabilité de l'électricité et avons mis au point une méthode pour en profiter chaque fois qu'elle revenait. Nous laissions la lumière de la cuisine tout le temps allumée et quand elle vacillait avant de se stabiliser, Eva se précipitait dans la buanderie pour lancer une machine, puis filait dans son studio, mettait un CD et, ignorant l'échauffement à la barre, commençait à danser tandis que je tirais la chasse pour évacuer l'eau sale des toilettes et ouvrais les robinets pour remplir la baignoire et l'évier tant que la pompe électrique marchait. Ensuite, je courais à mon ordinateur et travaillais d'arrache-pied avant que tout ne tombe de nouveau en panne. Père avait acheté il y a longtemps un groupe électrogène pour alimenter la pompe à eau au cas où il y aurait un incendie et que nous soyons privés d'électricité et parfois nous l'allumions afin qu'Eva puisse danser et moi tenter d'aller sur Internet et lire les nouvelles, ou du moins la propagande, violente ou rassurante selon les sites, qui s'auto-proclamait comme telle. Mais même quand il arrivait que les lignes téléphoniques fonctionnent, il était pratiquement impossible de se connecter. En général, je supportais si mal de gâcher les moments où le courant marchait à attendre un accès Internet que je renonçais et me mettais à étudier avec acharnement pendant que le groupe électrogène s'essoufflait dehors. À la fin, comme le temps passait et que l'essence commençait à manquer, Père nous convainquit de ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. Au début, quand le courant sautait alors que nous préparions un repas, nous sortions le réchaud à gaz Coleman et terminions la cuisson sur ces brûleurs qui sifflaient jusqu'au jour où nous n'avons plus pris la peine de ranger le Coleman. Lorsque nous avons fini la dernière bonbonne de gaz et qu'à la quincaillerie on n'en vendait plus, nous avons trouvé comment cuire des pommes de terre sous le charbon du poêle, dans le salon, et appris à faire sauter des pancakes, à cuire des haricots à l'eau et du riz à la vapeur sur le dessus. Nous avions consommé depuis longtemps ce qu'il y avait dans le congélateur, et au bout d'un moment, nous avons dû renoncer au frigo aussi. Notre père a creusé un trou dans le ruisseau, l'a tapissé de pierres et de sacs poubelles en plastique noir, l'a recouvert avec un panneau de signalisation « Céder le passage » qu'il avait récupéré autrefois à la déchetterie et l'a fièrement appelé « réfrigérateur ». Eva et moi, nous plaignions de devoir tout envelopper pour que l'eau ne pénètre pas dans les aliments, d'avoir à descendre au ruisseau chaque fois que nous voulions du lait ou une laitue ou de la margarine, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à conserver au froid. Le téléphone s'est éteint de la même façon que l'électricité. Pendant un moment, après que le courant avait cessé d'être fiable, nous pouvions encore passer un coup de fil de temps en temps si nous étions suffisamment persévérants. Composer le numéro jusqu'à ce que les 7 chiffres sifflent dans nos têtes prenait parfois toute la matinée, Tout ça pour entendre la voix électronique de la compagnie de téléphone répondre poliment « Nous sommes désolés, toutes nos lignes sont occupées, veuillez raccrocher et rappeler ultérieurement. » Mais tôt ou tard, nous parvenions à établir la communication. Nous pouvions encore signaler au répondeur de la compagnie d'électricité que le courant avait de nouveau sauté. Un soir, début mai, père est rentré à la maison avec un fusil de chasse et quelque temps après est arrivé un jour où il n'est plus allé travailler du tout. « J'ai comme l'impression que les vacances d'été commencent plus tôt cette année », avait-il annoncé la veille, tandis qu'il faisait cuire des œufs sur le poêle pour notre dîner. À cause de cette fichue infection, il manque la moitié du personnel et il semble qu'on ne trouve pas d'antibiotiques pour la soigner. Et maintenant, il y a des rumeurs de méningite. L'administration a l'air de penser que tout le monde fera des économies si l'école s'arrête un mois plus tôt. Il avait soupiré et ajouté « En temps normal, je serais contre ça, mais cette année, je suppose que je suis prêt à prendre des vacances. Et puis, il faut que je remette des bardeaux au toit et que je remplace les poutres pourries sous la buanderie afin que tout reparte à l'automne prochain. » À ce moment-là, la poste marchait sporadiquement et les magasins fermaient plus souvent. Pendant plusieurs mois, les fonctionnaires avaient été payés avec des billets à ordre jusqu'à ce que les banques refusent d'honorer les reconnaissances de dette du gouvernement. Puis les fonctionnaires n'avaient plus été payés du tout. C'est incroyable la rapidité avec laquelle tout le monde s'est adapté à ces changements. J'imagine que c'est comme ça que les gens qui vivent par-delà la forêt s'étaient accoutumés à boire de l'eau en bouteille, à conduire sur des autoroutes bondées et à avoir affaire aux voix automatisées qui répondaient à tous leurs appels. À l'époque, eux aussi ont pesté et se sont plaints, et bientôt se sont habitués, oubliant presque qu'ils avaient un jour vécu autrement. Peut-être est-ce vrai que les contemporains d'une époque charnière de l'histoire sont les personnes les moins susceptibles de la comprendre. Je me demande si Abraham Lincoln, lui-même, aurait pu répondre à l'inévitable questionnaire sur les causes de la guerre de sécession. Une fois que les quotidiens ont cessé de paraître tous les matins et que les informations à la radio sont devenues de plus en plus rares, les quelques nouvelles qu'on arrivait à avoir étaient si fragmentaires et si contradictoires qu'elles ne nous disaient pratiquement rien sur ce qui se passait vraiment. Bien sûr, une guerre sévissait. Nous avions déménagé la radio de notre mère de son atelier à la cuisine, et avant que les piles meurent au printemps dernier, nous la cajolions pour qu'elle marmonne sa litanie de désastre pendant que nous préparions le dîner. Parfois, les comptes rendus de la guerre faisaient taper du pied et jurer notre père, et parfois il l'envoyait dans sa chambre à l'étage, bien avant que le repas fût prêt. Les combats avaient lieu à l'autre bout du monde. « Avaient lieu », nous assuraient les politiciens, « pour protéger nos libertés, pour défendre notre mode de vie. » C'était une guerre qui se déroulait ailleurs, mais elle semblait s'accrocher à nos jours, pénétrer notre conscience comme une lointaine et désagréable fumée. Elle n'affectait pas directement ce que nous mangions, comment nous travaillions et jouions. Pourtant, nous ne pouvions pas nous en débarrasser. Elle ne voulait pas s'en aller. Certaines personnes disaient que c'était cette guerre qui avait provoqué la crise. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dunlopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots, tout attaché, @gmail.com. À bientôt!